Shabbos Kodesh. Yidel lech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos.
Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la Paracha sur Radio Judaïka Strasbourg, émission réalisée dans des conditions un peu particulières, comme chaque semaine, à nos côtés, le grand rabbin de Strasbourg et de sa région, Avraham Arlzeï. Bonjour.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous en studio pour cette émission. Cette semaine, comme la semaine dernière, nous lirons les prochaines, il y aura deux parachutes, Mechubarim, Acharemot et Kedoshim, l'entrée du Shabbat à 20h20 selon le calendrier, et demain la fin du Shabbat à 21h34. Les horaires sont évidemment valables pour Strasbourg et sa proche région. Et comme chaque semaine, on souhaite un refoua shelema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Monsieur le grand rabbin, on commence tout de suite et sans plus tarder avec le résumé des deux parachas.
Alors effectivement, deux sidrotes cette semaine, comme la semaine dernière. La semaine dernière, le lien était peut-être un peu plus évident, puisque Tazria et Metzora traitaient pour le coup exactement du même sujet, qui était celui de cette tzarat, cette maladie un petit peu mystérieuse, et dont les explications s'étendaient à la fois sur la paracha de Tazria et la paracha de Metzora. Cette semaine, le lien est un peu moins évident entre ces deux sidrotes, mais il y en a malgré tout un, nous essaierons de l'expliquer. La paracha de Acharemot, donc la première des deux que nous lirons demain, est essentiellement consacré à la fête de Yom Kippour, hein, tout le service qui se réalisait dans le tabernacle dans un premier temps, puis dans le temple par la suite, le jour de Yom Kippour, un service tout à fait particulier, avec une action et un rôle que jouait le Kohen Gadol, qui était particulièrement important. Bien sûr, tous les Kohanim entraient également en action, mais le Kohen Gadol principalement, et nous mettrons l'accent à la fin de cette paracha sur la gravité des relations interdites, notamment les relations incestueuses, et puis la paracha de Kedoshim, donc la seconde paracha que nous lirons, qui elle, dans un style complètement différent, va nous abreuver en quelque sorte de commandements. C'est une sidra dans laquelle il y a énormément de lois qui sont rapportées, notamment des lois qui régissent les rapports entre un homme et son prochain. Et donc les psukim, les versets, vont s'enchaîner les uns après les autres pour nous présenter ces différents commandements. Mais nous terminerons, et voilà déjà un point commun important, nous terminerons cette sidra de Kedoshim également par un avertissement tout particulier concernant ces relations interdites.
Alors, dans le contexte, dans l'histoire, on arrive à Acharemot après la mort de Nadav et Abihu, les fils du Kohen Gadol Aaron. Les commentateurs, eux, nous donnent une explication assez importante pourquoi, en fait, les deux fils d'Aaron sont décédés. Il y a des explications de différents commentaires.
Là, vous avez raison, Jean, on aurait même dû immédiatement placer les choses dans leur contexte. Tout ce service de Yom Kippour est apporté à la suite du premier verset qui, lui, nous dit que nous nous situons juste après la mort des enfants d'Aaron. Nous savons pertinemment, Jean, qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre la mort des enfants d'Aaron et ce moment, mais en réalité, tout ce qui a été dit depuis la paracha de Shemini, rappelez-vous, Jean, la troisième sidra du Sefer Vayikra, dans laquelle cette faute était exposée de manière claire, elle était détaillée, eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses, mais qui sont toutes des conséquences, en réalité, de la mort des enfants d'Aaron. Il faut dire que cette mort n'est pas un événement anodin, il n'est pas passé inaperçu dans l'histoire du clan Israël, cette mort brutale de Nadav et Avihu, qui avait été donc relatée dans la paracha de Shemini, dans laquelle on nous avait parlé d'un feu étranger, et c'est en apportant ce feu étranger que les enfants d'Aaron ont été brûlés. Les commentateurs, Rashi notamment, le Midrash, et tous les autres commentateurs vont nous apporter diverses explications concernant la mort des enfants d'Aaron, notamment le fait par exemple qu'il se soit donné le droit et autorisé à enseigner la halakha devant leur maître, ou bien qu'ils aient raillé leur maître, ou bien qu'ils ne se soient pas mariés. Notre paracha, notre sidra, Jean, nous en donne une explication a priori différente, très laconique, mais korvatam lifne Hashem vayamutu. C'est parce qu'ils ont cherché à se rapprocher de Dieu qu'ils sont morts. Et effectivement, bien qu'on pourrait y voir ici une autre raison, en réalité cette raison ne fait que résumer les raisons précédentes, celles qui ont été rapportées dans la paracha de Shemini, parce que ce qui a entraîner les enfants d'Aaron à adopter ces différentes attitudes dont je viens de parler, eh bien, c'est en réalité une volonté de se rapprocher de Dieu, mais d'une manière ostentatoire et surtout d'une manière finalement qui n'était pas celle que la Torah souhaitait pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté finalement de la part des enfants d'Aaron de vivre ici une intimité, une proximité avec Dieu, mais de vivre cette proximité et cette intimité en allant au-delà de ce que la Torah exige d'eux et surtout en se coupant du reste de la population et parfois un petit peu en écrasant les autres. Et cette intimité-là, eh bien, Dieu n'en veut pas. Dieu, bien sûr, il prône pour une recherche de cette intimité, de cette proximité, mais sûrement pas en écrasant les autres et sûrement pas en inventant de nouveaux préceptes ou en allant au-delà de ce que lui-même a exigé de la part de ses enfants.
Toujours selon les commentateurs, et peut-être c'est la date où... qui est indiqué, il y a un lien entre la mort de Nadav et Abihu et la fête des Yom Kippour. C'est ce jour-là où sont morts les deux enfants d'Aaron ou il y a un lien différent?
Alors c'est un lien, a priori différent, mais effectivement un lien, puisque si on introduit tout le cérémonial de Yom Kippour en nous précisant que nous nous situons après la mort des enfants d'Aaron, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et effectivement, alors, on le sait, dans notre tradition, la mort peut être une forme de kapara, d'expiation. Alors pour le coup, là, elle est de manière tout à fait extrême. Et heureusement, nous ne sommes pas obligés de passer systématiquement par la mort pour pouvoir expier les fautes. Mais en tout cas, elle traduit une sorte finalement d'expiation extrême. Et puis, rappelons que lorsqu'il s'agit de personnalités comme Nadav et Abihu, qui étaient de grands tzadikim, hein, voilà, certes, on leur en a tenu rigueur, pour autant... il faut donc se rappeler qu'il s'agit ici de grandes personnalités et que lorsque deux grandes personnalités sont amenées à disparaître, à quitter ce monde, eh bien, elles permettent souvent d'obtenir l'expiation pour l'ensemble du peuple. Donc il s'agit, lorsqu'on parle de Yom Kippour, d'une expiation collective et c'est l'une des raisons pour laquelle eh bien, nous introduisons ce passage par la mort des enfants d'Aaron.
Alors la suite de la paracha est assez technique, on parle beaucoup du service de Yom Kippour du Kohen Gadol, et à la fin de la du service, on parle de quelque chose qui est bien connu par nos auditeurs, c'est le bouc de Azazel. Vous pouvez nous rappeler en quelques secondes ce que c'est la symbolique de ce bouc?
Alors, non pas le bouc, mais les deux boucs, Jean. Pourquoi les deux boucs? Shnei Seirim, parce que le rituel des deux boucs est un rituel incontournable de la journée de Yom Kippour, est un rituel dans lequel, justement, eh bien, un bouc est absolument indissociable du second. Il y a le fameux bouc qui était l'Hachem, qui était sacrifié, qui était égorgé, auquel on faisait ce que l'on appelle dans notre tradition la Shrita, et qui était donc sacrifié, et dont le sang était aspergé à l'intérieur du Mishkan, et le second bouc qui lui, effectivement, Jean, ce Seir la Azazel, qui n'était pas tué, donc qui pouvait avoir cette sensation de bien s'en tirer finalement, mais qui était conduit au bord d'une falaise, dans le désert, dans un endroit donc absolument... vide de toute population, et jeté du haut de la falaise par le Ish-Iti, donc celui qui est qualifié de Ish-Iti, l'exprès dans la Torah. Et bien de cette manière, on actionnait tout le rituel du pardon. Pourquoi est-ce que ces deux boucs sont indissociables?
C'est le bouc qui avait tous les pardons qu'on jetait, c'est ça?
Alors pourquoi? Alors en réalité, comme je l'ai dit, ces deux boucs sont indissociables. Donc si on a tendance à accorder le pardon au bouc qui était jeté du haut de la falaise et qui symboliquement, Jean, eh bien, prenait sur lui en quelque sorte toutes les fautes, hein, c'est comme s'il emportait dans cette falaise toutes les fautes du clan Israël, pour autant, je l'ai dit, il était indissociable du premier bouc. Et lorsque l'on parle de deux boucs, eh bien c'est parce que tout simplement il y avait un tirage au sort. Jean, c'est très important de rappeler l'importance de ce tirage au sort, à savoir que ces deux boucs étaient parfaitement identiques. Nous avons bien sûr toute la Torah orale qui va nous décrire dans les moindres détails, la Mishnah dans Yoma qui nous décrit dans les moindres détails la manière dont on devait choisir donc ces deux boucs qui allaient participer à ce tirage au sort. Ils étaient absolument identiques, indissociables, même couleur de poil, même taille, même valeur pécuniaire, et on plaçait donc dans une petite boîte deux plaquettes, l'une sur laquelle était inscrit l'Hachem, la seconde sur laquelle était inscrit l'Azazel, et le Kohen Gadol. Donc elle est tirée au sort et associée chacune de ces plaquettes à chacun donc, de ces deux boucs. Et c'est de cette manière que le destin de chacun de ces boucs était entériné, en quelque sorte. Et donc là, il y a une grande symbolique, bien sûr, derrière le fait que ces boucs étaient identiques. Le Rav Hirsch, notamment, développe beaucoup cette idée que dans la vie, contrairement à ce que l'on peut imaginer, on a beau avoir des origines différentes, on a beau avoir parfois des origines sociales qui sont différentes, eh bien, c'est l'homme, quelque sorte, qui va décider de son destin. Et on ne peut pas se cacher derrière des éléments tels que le fait que nous ne soyons pas nés dans une famille qui avait les moyens ou une famille qui nous a donné une éducation. C'est à l'homme, par la suite, de se construire et de faire en sorte de forger son propre destin. Et nous voyons bien que là, deux boucs, a priori, qui étaient totalement identiques, eh bien, vont avoir deux destins complètement différents. L'un qui est sacrifié, qui a une certaine forme de kedusha, de sainteté, tandis que l'autre était jeté du haut de la falaise. Et je pense que c'est une très, très grande leçon pour nous, et surtout une grande leçon lorsque nous parlons de la journée de Yom Kippour, qui est propice à la réflexion et à l'introspection.
Alors, pourquoi on nous interdit de consommer du sang et qui nous oblige à le couvrir ? Le sang a une valeur particulière dans la Torah, donc pas de boudin pour nous.
Effectivement, pas de boudin, et je me permets de faire remarquer, Jean, qu'au-delà de la partie que vous voulez mettre en valeur dans notre paracha, à la fin de notre paracha, où il y a donc un passage consacré à l'interdiction de consommer du sang, à la gravité de consommer du sang dans la Torah, également l'obligation de le couvrir dans certaines circonstances, hein. Je rappelle que lorsque nous faisons l'abattage rituel des volailles, eh bien il y a une obligation de recouvrir le sang, avant de consommer l'animal, ce qui n'est pas le cas pour les bovins ou pour les ovins. C'est une loi qui ne concerne que les volailles. Mais je rappellerai, Jean, et c'est important de le dire, que nous avons, avant ce passage-là, donné une importance tout à fait particulière au sang, puisque le sang était déjà utilisé, le sang récolté des différentes shritot, des différents abattages rituels, pour asperger différentes parties, notamment dans le Mishkan. Donc on voit l'importance que joue et qu'a ce sang, que ce soit dans l'interdiction de le consommer, ou que ce soit dans le rituel, et notamment le rituel de Yom Kippour. Effectivement, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie, mais c'est une sorte de vie finalement un peu instinctive, une vie bestiale, et qu'un homme a absolument l'obligation de dompter, de canaliser. Donc l'interdiction de consommer le sang, c'est en quelque sorte l'interdiction finalement d'accepter ce sang à l'état brut tel qu'il est, avec toute la violence qu'il peut comporter en lui. Le sang doit rester avant tout un vecteur de vie, d'énergie, et lorsqu'on l'asperge sur différentes parties, eh bien on cherche à montrer notre volonté de le canaliser, de le dompter. Le recouvrir, c'est aussi cela, c'est aussi ce respect que l'on doit, en quelque sorte, finalement, l'animal, bien qu'étant mort, si ce sang est encore visible, eh bien, il y a encore un petit peu de vie. Donc vraiment, insister sur cette obligation que nous avons absolument de canaliser cet instinct de vie, mais un petit peu bestial, qui existe parfois en l'homme et qui nous différencie de l'animal.
Et comme dans la paracha suivante de Kodeshim, on évoque le thème des relations interdites. Alors, concernant ce passage, tout est expliqué mot par mot, on emploie tous les mots pour bien définir quelles sont ces relations interdites. Et pourquoi on n'aurait pas fait quelque chose de plus général et qu'on a voulu énoncer phrase par phrase, verset par verset, toutes ces relations interdites, d'autant plus qu'il y en a une partie ici dans à Haremot, il y a une partie dans Kodeshim. Là, on aurait peut-être pu faire un truc général, non ? Ça aurait été plus simple.
Alors, il aurait été effectivement un peu difficile de toutes les regrouper en une phrase, que vous venez de le dire vous-même, Jean. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup ? Eh bien, tout simplement parce que chacune renferme en elle tout un tas d'interdits, et même si, bien sûr, il y a un point commun, un dénominateur commun entre ces différentes relations interdites, notamment tout ce qui relève de l'inceste, eh bien, il y a à l'intérieur de chacune de ces relations quelque chose à découvrir, encore une fois, dans le message moral, éthique qu'elles viennent porter. Comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on qualifie dans la Torah cette interdiction de la relation avec notamment donc les proches, on la qualifie de Gilui Erva. Gilui Erva qui veut dire littéralement découvrir la nudité, ou ce que l'on peut traduire également par la honte. Et c'est très intéressant de voir que c'est ce terme qui a été choisi parce qu'il prend le contre-pied de ce que la Torah a l'habitude plutôt de qualifier de relations qui sont d'une extrême sainteté. Lorsque les relations intimes ont lieu dans le cadre qui a été défini par la Torah, elles n'ont, et c'est la particularité d'ailleurs de la Torah, contrairement à d'autres systèmes de pensée ou d'autres religions, elles n'ont absolument rien de honteux, elles n'ont absolument rien de, aucun caractère sale ou dégoûtant ou obscène. Elles sont au contraire qualifiées de quelque chose de kadosh, de quelque chose de saint, de quelque chose qui permet de se construire et qui permet de s'élever. Et donc, qualifier ici ces relations de Gilui Erva, de tout simplement quelque chose qui va découvrir la nudité, eh bien, c'est montrer que lorsque ces relations se font en dehors du cadre qui a été prévu par la Torah, eh bien, effectivement, elles sont ramenées à leur plus simple élément, c'est-à-dire une volonté un petit peu bestiale de l'homme d'uniquement découvrir finalement cette nudité. Et donc, cela vraiment nous montre à quel point, et c'est la raison pour laquelle la Torah va longuement s'attarder sur cette liste de relations, un homme, finalement, pour se construire, doit absolument se fixer un cadre. Et ce cadre-là, c'est celui qui est proposé à la fin de la Torah par la parashat Acharemot, et c'est également celui que l'on va retrouver au début de la parashat Kedoshim. Et donc, on comprend beaucoup mieux, finalement, la jonction. À partir du moment où la parashat Kedoshim va nous donner cette injonction, tout au début de la parashat, en nous disant « soyez saints », c'est-à-dire « soyez séparés », eh bien, c'est nous donner la possibilité, nous inviter à rentrer dans un cadre. Et ce cadre-là, eh bien, on commence déjà à le poser à la fin de la parashat Acharemot.
Alors, Monsieur Grandma, comme disent les jeunes, on va switcher sur la parashat de Kedoshim. Et dans le premier verset, ou l'un des premiers versets, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, Hachem ». Alors, d'abord, première chose, est-ce qu'on peut être saint comme Hachem? Et ça me semble difficile. Ou alors, il faut comprendre le verset comme Rashi l'explique dans son explication. Rashi traduit ce verset par le fait qu'il faut être séparé. Est-ce qu'on peut expliquer ce que dit Rashi, ou vous voulez réagir sur le fait d'être saint?
Non, je veux bien sûr rebondir sur ce que dit Rashi, puisque Rashi, vous le savez, c'est un commentateur du Pshat. Il ne fait qu'expliquer le sens ici obvi du verset. Et donc, lorsque Rashi nous dit « soyez séparés », il n'est pas en train de faire des digressions complexes sur le verset, mais tout simplement en train de nous en expliquer le Pshat, c'est-à-dire le sens premier. Et Kedoshim, qu'on traduit très mal d'ailleurs en français par le mot « saint », parce que « saint », ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Et je me réfère un petit peu à ce que nous expliquions la semaine dernière à propos des termes également de Touma et de Tahara, hein, de pureté et d'impureté, qui nous brûlent un petit peu les oreilles quand on les entend, parce qu'ils ne traduisent pas vraiment en français ce qu'ils veulent dire dans leur langue d'origine. Alors, être séparé tout simplement d'une vie profane, c'est-à-dire être capable finalement dans sa vie de comprendre eh bien, que tout ne se ressemble pas, qu'il y a des choses effectivement qui relèvent du profane, des choses qui relèvent d'autres choses, et que le propre du travail finalement d'un juif, celui que la Torah nous invite à faire, c'est à pouvoir justement rester toujours en retrait de ce qui pourrait porter atteinte à notre projet humain. Et c'est en cela que la Torah va énoncer, tout au long de la parashat Kedoshim, tout un tas de lois, puisque c'est la question, bien sûr, qu'on peut se poser naturellement. Peut-être que j'anticipe votre question, mais on va être abreuvé, inondé de lois dans la parashat Kedoshim, des lois qui ont l'air de ne rien avoir les unes avec les autres, mais qui ont ce lien-là, finalement, de donner la possibilité à l'individu, justement, de se fixer, comme je l'ai dit, un cadre, et un cadre qui va lui permettre de toujours rester en retrait de ce qui pourrait être néfaste pour son développement personnel et pour la réalisation de son projet dans ce monde. Donc ces lois-là, bien que très différentes les unes des autres, avec quand même ce lien, hein, qu'elles viennent régir un petit peu les rapports entre l'homme et son prochain, certaines paraissent assez évidentes, hein, elles paraissent être des lois de bon sens et des lois qui permettent tout simplement à toute société de pouvoir vivre en bon ordre, eh bien, pour autant, ces lois-là, qui sont en réalité beaucoup plus subtiles qu'il n'y paraît, parce que derrière, j'ai envie de dire, le commandement premier, voilà, se cache tout un tas de subtilités, eh bien, il y a, encore une fois, la volonté de vraiment de définir et de fixer ce cadre.
Alors, monsieur Rabin, dans cette paracha, il y a deux grands commandements. Le respect dû aux parents et le fait d'observer le Shabbat, deux commandements qui se trouvent dans les dix paroles, dans le côté droit, donc dans les premières tables de la loi. Comment on peut comprendre et mettre en perspective ces deux éléments qui sont souvent associés?
Alors effectivement, vous avez bien fait de faire remarquer, Jean, que ces deux commandements se trouvent du côté droit des dix commandements, des deux tables des dix commandements, et que non seulement ils se trouvent du côté droit, mais qu'ils se trouvent l'un à la suite de l'autre, puisque le commandement du Shabbat se trouve en quatrième position et le respect des parents se trouve en cinquième position. Alors on pourrait se dire, les commandements sont classés de manière crescendo, on va du plus important au moins important. On commence par ce qu'il y a de plus important, de capital. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Et donc lorsqu'on arrive au cinquième commandement, eh bien ce cinquième commandement pourrait avoir moins d'importance que le quatrième, d'où cette idée de conflit qui peut exister parfois entre l'obligation de respecter ses parents et l'obligation de respecter le Shabbat, et de se dire que dans un tel conflit, il pourrait arriver que des parents qui ne partagent pas les mêmes valeurs spirituelles puissent exiger de la part d'un enfant qu'il en vienne à renoncer à sa foi, qu'il en vienne à renoncer à son engagement religieux et spirituel. Ça peut exister. Eh bien, la Torah viendrait nous rappeler justement que le respect des parents, même s'il est prôné et qu'il est mis par la Torah en avant et presque déclamé comme une valeur absolue, et bien pour autant, lorsqu'il rentre en conflit avec le respect du Shabbat, et bien il s'efface, ce respect des parents, devant l'obligation de respecter le Shabbat. Voilà, je ne rentre pas maintenant, encore une fois, je ne réponds pas à cette question de savoir est-ce qu'il y a vraiment un classement décrescendo dans les dix commandements, mais effectivement, voilà, le respect des parents ne peut avoir de sens qu'à partir du moment, il y a toujours du sens. Ce n'est pas parce qu'il y aurait un conflit d'ailleurs entre les deux, et je le précise, qu'il faudrait se permettre d'avoir un mépris absolu. Simplement, dire que lorsque nous avons ces deux valeurs qui rentrent en conflit, eh bien, si c'est le Shabbat qui va prendre toute sa valeur et qui va prôner, c'est parce que lorsque la Torah va donner tellement d'importance au respect des parents, c'est parce qu'elle voit les parents comme des associés de Dieu dans la création de l'homme. Ils sont associés au projet divin, et à partir du moment où eux-mêmes remettraient en question ce projet divin, eh bien, ils verraient finalement ce respect que leur a conféré la Torah être lui-même impacté de par le fait qu'ils s'en excluent. Voilà, je pense être assez clair. La Torah nous dit qu'il y a trois associés dans la création d'un enfant. Il y a bien sûr le père, la mère, mais également Dieu. Lorsque le père et la mère acceptent tout naturellement de s'associer à Dieu dans ce projet, eh bien, ils occupent toute la place du coup que leur donne la Torah. Lorsqu'en revanche, ils le traduisent par exemple un refus de s'associer à l'esprit du Shabbat, eh bien, lorsqu'il refuse de s'associer à l'esprit du Shabbat, il refuse en quelque sorte cette association avec Dieu dans la création de l'enfant. Et donc, eh bien, la Torah, tout naturellement, va faire en sorte que, non pas ils soient non pas bafoués, mais en tout cas que ce respect qui leur était dû de manière absolue, eh bien, soit impacté et en tout cas s'efface au profit du Shabbat.
Alors, il y a un verset mondialement connu et peut-être mal interprété aussi, aime ton prochain comme toi-même, ou aime ton lointain, comme dirait André Neher, Zichrono Livracha. Comment vous comprenez ces versets, vous?
Alors, puisque c'est l'année André Neher, effectivement, il y a tellement de milliers ou de centaines de façons d'expliquer ce verset, comme vous dites, un verset universel et qui a été commenté et interprété, je pense, par la quasi-totalité des Mefarchim, peut-être citer et s'arrêter sur la traduction ou l'explication qu'en faisait André Neher, non pas aime ton prochain, mais aime ton lointain, parce que tout simplement, Jean, il est très facile d'aimer son prochain. On aime tous nos proches, on aime tous nos amis, on aime tous ceux qui nous ressemblent. Il est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, ou en tout cas ceux qui semblent ne pas nous ressembler. Et bien sûr, je ne parle pas ici de ressemblance physique, je parle de ressemblance que ce soit par les idées, par les valeurs qu'ils peuvent porter. Alors, je ne dis pas qu'il faut aimer des gens qui véhiculeraient des valeurs qui sont des valeurs immorales ou amorales, mais en tout cas, accepter que l'autre soit différent et être capable, et c'est tout le travail finalement de ce verset, être capable d'aimer et de percevoir en l'autre, même celui qui ne me ressemble pas, eh bien de percevoir justement un autre dans le sens le plus noble du terme. Et il me semble que c'est tout cela le message, bien sûr, d'André Nair lorsqu'il disait « Aime non pas ton prochain, mais ton lointain comme toi-même. Sois capable de faire ce travail qui te permet, et je crois que toutes les mitzvot, tous les commandements que nous venons de citer, en tout cas d'évoquer dans la paracha de Kedoshim, puisqu'ils sont très nombreux, ces commandements à régir justement les rapports entre moi et l'autre, eh bien, ont aussi pour objectif de grandir l'autre à mes yeux. C'est-à-dire que quand je vois l'autre comme un partenaire dans le projet divin, un partenaire dont je dois prendre soin, puisqu'il y a énormément de commandements qui me demandent de le respecter, qui me demandent de l'aider dans certaines situations, ou au contraire, de ne pas lui porter atteinte, même des fois des choses qui peuvent me paraître un petit peu aberrantes, eh bien, c'est que la Torah m'invite justement à voir dans l'autre un partenaire quotidien dans la construction du projet qu'est le projet de l'humanité, le projet du monde. Et de cette manière, eh bien, l'autre est grandi à mes yeux. S'il est grandi à mes yeux, eh bien, j'ai peut-être plus de facilité à l'accepter et plus de facilité à l'aimer.
Alors, il nous reste quelques secondes avant de rendre l'antenne. On parle de ce fameux verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ce sujet parle justement à une semaine de Lag BaOmer. On peut dire un mot sur Lag BaOmer et sur Rabbi Akiva qui, lui, n'a cessé de prôner tout au long de ses enseignements cette forme de relation avec ses élèves. Et on connaît malheureusement le résultat et la suite. Est-ce que on peut comprendre qu'il y a une relation entre ce verset et la date de la Bible?
Bien sûr, et c'est en fait tout le paradoxe que vous soulignez, Jean, que ce soit Rabbi Akiva qui est toute sa vie prenait l'importance de ce verset, les conséquences positives de l'amour que l'on doit à autrui, et à l'inverse, bien sûr, les conséquences extrêmement néfastes qui peuvent malheureusement se dégager d'un manque de respect, de considération vis-à-vis de l'autre, et bien c'est incroyable que ce soit justement lui qui ait été touché par cette tragédie absolue avec la disparition de ses 24 000 élèves. Et on peut y comprendre, je crois, justement, au niveau de ce paradoxe, et bien le fait que ce soit justement les élèves de Rabbi Akiva qui, malgré ces enseignements répétés de leur maître, eh bien, n'est pas su les intégrer, n'est pas su en comprendre, là encore, et en dégager, encore une fois, toutes les subtilités et toutes les conséquences, que ce soit eux qui aient été touchés. Parce que lorsqu'on a la chance d'avoir un maître de la dimension, de la trempe de Rabbi Akiva, lorsqu'on a la chance de pouvoir étudier de sa Torah, lorsqu'on a la chance de pouvoir saisir, justement, au travers de tous les shiurim, de tous les cours que l'on peut entendre de Rabbi Akiva, mais pas simplement de ses cours. Je pense que Rabbi Akiva était lui-même un exemple vivant dans son rapport aux autres, de l'importance justement de ce respect, eh bien, en quelque sorte, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Bien sûr, je ne rentre pas maintenant dans l'analyse de cette faute, il faudrait un cours entier, et cette faute est extrêmement subtile, hein, et il ne faudrait pas non plus tomber dans l'extrême inverse en imaginant que les élèves de Rabbi Akiva étaient des personnes qui ne manifestaient absolument, qui n'étaient incapables de se manifester du respect les uns vis-à-vis des autres. Bien sûr, cette faute est à chercher dans quelque chose de beaucoup plus subtil dans les rapports, mais à leur niveau et en tant qu'élève de Rabbi Akiva, eh bien, on n'attendait pas simplement d'eux qu'ils soient capables de se dire bonjour en se voyant le matin ou de se préparer le café, mais on attendait de leur part que dans les relations et justement dans les binômes qu'ils formaient dans leur étude, ces fameuses ravroutot, eh bien, qu'ils soient capables d'aller beaucoup plus loin dans le rapport à autrui.
Voilà, merci monsieur le grand rabbin pour avoir répondu à toutes nos questions. Excusez-nous pour la qualité du son qui n'est pas optimale aujourd'hui. Shabbat shalom monsieur le grand rabbin.
Shabbat shalom.
Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lucas pour la réalisation technique de cette émission. Et à vous tous et à vous toutes, Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelach prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone